Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir la nouvelle année civile par une conférence sur l'Atlas de Truden, et par la même occasion, je vous présente mes bons voeux pour cette nouvelle année. Alors, ensemble, on va évoquer une source qui est peu commune pour l'histoire des espaces ruraux de la France d'Ancien Régime. Il s'agit d'une source cartographique de nature administrative. On utilise l'expression pour la désigner Atlas de Truden. Alors beaucoup de personnes ou de chercheurs connaissent cette source qui est désormais accessible sur Internet, qui a fait l'objet d'une numérisation récente et dont l'intégralité des planches est accessible sur Internet. Donc beaucoup de personnes maintenant ont désormais accès à cette source. Elle est régulièrement utilisée, exploitée par des historiens, mais trop souvent en guise d'illustration dans le contenu. Alors si l'Atlas de Truden a souvent été sollicité pour la richesse et la beauté esthétique de ces cartes, il a rarement été étudié du point de vue informatif, c'est-à-dire du point de vue de son contenu. Et moi aussi, je suis coupable du même travers. Cette source, donc l'Atlas de Truden, qui m'a occupé pendant quelques années dans le cadre d'un DEA puis d'un doctorat, je l'ai plus étudié au niveau de son histoire, à savoir ses origines, sa fabrication et ses usages. Mais finalement, j'ai peu étudié le contenu, c'est-à-dire je ne me suis pas attardé sur un commentaire précis de chacune des planches, de chacun des éléments qui sont présentés dans cet atlas. Alors aujourd'hui, je vais tenter néanmoins de voir en quoi cette source peut être utile, quelles sont les études que nous pouvons envisager en utilisant cette source, notamment dans le domaine de l'étude des espaces ruraux. La réalisation, pour replacer un petit peu le contexte, la réalisation de cet atlas intervient dans le tiers médian du XVIIIe siècle, et le but premier est de cartographier les routes royales. Au départ, l'objectif n'est pas de cartographier un espace rural, voire un espace urbain, c'est d'abord la route. C'est la route qui intéresse au premier chef les administrateurs. Maintenant, on a tendance à aller bien au-delà de cette simple représentation des routes et à utiliser, à capter l'atlas pour bien d'autres usages, bien d'autres potentialités d'études. Il existe tout un panel d'utilisations possibles dans le domaine de l'archéologie paysagère ou encore pour l'étude de l'occupation des sols, des pratiques agricoles. Alors, ma communication va se concentrer plus spécifiquement sur des exemples pris dans la généralité de Caen. On aurait pu choisir un autre axe, ou même voir l'ensemble des généralités normandes, à savoir Rouen, Alençon et Caen. Là, je me concentre, ce qui représente déjà un beau corpus, je me concentre sur la généralité de Caen, dont le territoire équivaut à peu près aux deux tiers de l'actuelle région de Basse-Normandie, pour résumer. Alors, les sources relative à l'administration des routes de cette ancienne généralité sont conservées à Caen, aux archives départementales du Calvados, mais finalement ces sources, elles sont d'un secours assez faible pour nous parce qu'elles n'abordent pas les conditions de fabrication de ces plans. On a des sources purement administratives, c'est-à-dire de gestion au quotidien des travaux, mais on a peu de documents, pour ce qui concerne les archives de l'ancienne généralité de Caen, on a peu de documents qui se rapportent à la manière de travailler des ingénieurs, des dessinateurs. Donc il faut utiliser d'autres documents. Moi, au premier chef, je vais bien sûr utiliser les planches de l'Atlas de Truden qui est conservé aux archives nationales à Paris, au département des cartes et plans, mais vous verrez aussi tout au long de cet exposé que je vais utiliser un certain nombre de sources annexes, puisque l'image à elle seule ne suffit pas. Si vous consultez l'Atlas de Truden sur Internet, vous aurez effectivement droit à de très belles illustrations, mais vous n'apprendrez rien sur l'histoire de ces illustrations. Il n'y a pas de nom de personnages, de dessinateurs, d'ingénieurs, il n'y a pas les noms de ces personnages qui réalisent l'atlas, il n'y a pas non plus de date sur ces planches, donc il faut utiliser d'autres sources pour reconstituer un petit peu ce pulse, comme toute recherche historique, c'est un pulse, et il faut assembler un certain nombre de pièces pour faire l'histoire de cet atlas. Donc moi je vais me concentrer au cours de cette communication sur un certain nombre de documents de nature iconographique, avec pour la plupart, à une ou deux exceptions près, toutes les extraits que vous allez voir appartiennent, sont des extraits pris sur les planches de la généralité de Caen. Alors, à chaque fois, ce sont des zooms, puisque les planches sont très volumineuses, et si je vous les présente de manière globale, vous n'allez pas voir le détail au niveau des espaces ruraux. Donc là, vous allez avoir un certain nombre de zooms. Donc, un certain nombre de questions vont guider ma présentation, à savoir comment les paysages du XVIIIe siècle sont représentés sur les cartes, quelles sont les méthodes pour représenter l'espace urbain, les villes, les bourgs, les villages, le bâti, mais aussi pour représenter les espaces ruraux, les espaces agricoles. Ensuite, il faut se demander quel est le regard qu'on doit porter sur cette source. Parce que cette source, et là je vais insister sur cet aspect-là, je ne vais pas tenir des propos dithyrambiques sur l'Atlas de Trudaine, c'est une très belle source, mais il faut l'utiliser avec un certain nombre de précautions. Comme toutes les sources, qu'elles soient écrites ou iconographiques, cartographiques, il y a des précautions à prendre, et moi je vais insister sur ces éventuelles précautions à prendre en matière d'usage, mais néanmoins, je vais tenter de révéler la valeur documentaire de ce corpus et éventuellement susciter de votre part des études à partir de ces différentes planches, à partir de cette source. Alors cette communication va procéder par un jeu de focales et on va régulièrement changer de zoom. Un premier axe d'analyse va permettre de recadrer le sujet dans son contexte général, sur le plan chronologique et spatial, parce que si vous utilisez, là aussi, si vous allez sur Internet et que vous utilisez de but en blanc une planche de l'Atlas de Trudaine, vous n'allez pas comprendre le sens de cette source, pourquoi on l'a créée. Donc dans une première partie, moi je vais m'intéresser au sens premier de cette source, à ses origines, au but, au plan administratif. Ensuite, nous aborderons de manière plus précise, plus en détail, le cas de la généralité de Caen avec la présentation de cette source au niveau de ces planches. Ensuite, la possibilité de recréer le réseau de cette généralité et on perdra bien entendu pas de vue les espaces ruraux et on insistera encore plus sur l'espace, le milieu rural dans un dernier volet plus développé. Je vais esquisser un certain nombre de pistes, d'axes de réflexion. Je vais m'interroger sur la véracité des informations contenues sur les planches et évoquer quelles sont les études qui peuvent être menées. Alors on va d'ailleurs, très vite le constater, cette source est très diverse, elle dépasse le seul fait routier et les champs d'exploitation sont très variés. Mais on ne perdra pas de vue un certain nombre de limites. Donc, premier aspect, un inventaire cartographique dédié aux routes. Toute utilisation de l'Atlas de Trudaine implique au préalable d'en connaître les contours. Quels sont les contours de cette source et quels sont ses enjeux, ses véritables enjeux au plan administratif. Cette collection de plans ne porte pas le nom de son créateur, le nom de son commanditaire. L'Atlas est né de la volonté d'un homme, d'un contrôleur général des finances, qui est Philibert Horry. Cet administrateur est l'un des administrateurs qui, à ce poste, va avoir la plus importante longévité. Après Colbert, c'est un contrôleur général des finances dont l'action s'inscrit dans la durée et dans un contexte économique assez favorable, ce qui lui permet de mener un certain nombre de réformes. Or, il va s'attaquer à un problème latent qui est la mauvaise qualité des routes. Les routes du royaume de France sont dans un état de dégradation avancée, ce qui nuit bien entendu à l'économie et au commerce du royaume. Là, les thèses mercantilistes sont constamment présentes en arrière-plan et les routes normandes ne sont pas à l'écart de ce phénomène. Là, au niveau des archives départementales du Calvados, on retrouve un certain nombre de mémoires émanant des chevins d'un certain nombre de villes ou éventuellement de communautés émanant de communautés rurales qui se plaignent de la mauvaise qualité des routes, ce qui se traduit par un enclavement et l'impossibilité de faire circuler les produits qui sont fabriqués, produits localement. Donc l'aire de commerce se restreint de fait par cette mauvaise qualité des routes. Donc Ori va s'attaquer à ce problème, va tenter de remédier à ce problème de la mauvaise qualité des routes. On lui doit deux textes. Il va mettre au point un vaste programme de réforme dans le domaine routier et il va rédiger deux grands textes législatifs. Le premier texte est diffusé en 1737 et il s'intitule « Mémoire sur la conduite du travail par corvée ». Tout est dit, déjà presque dans le titre, pour réparer les routes, il faut passer par la corvée. Alors la corvée, pour simplifier, définir assez rapidement, toute personne qui est assujettie à la taille, qui paie la taille, doit, en plus de ce paiement en monnaie sonnante et trébuchante, apporter sa force de travail, c'est-à-dire ses bras, pour plusieurs jours par an, travailler à la réfection des routes, venir combler les trous, les ornières, charrier des graviers pour améliorer le système routier. Donc Ori n'est pas l'inventeur de la corvée, ça existe depuis très longtemps, on retrouve même des exemples de corvées au cours de l'Antiquité, mais lui ce qu'il décide, Ori, c'est de généraliser ce système qui était employé au coup par coup en fonction des régions, des provinces. On avait des modalités de perception de cette corvée assez aléatoires. Donc là, il fournit tout un texte législatif dans lequel il explique comment on doit percevoir cette corvée. Et ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que pour distribuer ce travail par corvée et pour faire un diagnostic de l'état des routes, il va commander un inventaire cartographique. Donc l'Atlas de Trudaine, au départ, c'est un inventaire des routes. Ça sert à mettre sur le papier l'état de chaque itinéraire routier et sur la carte, on pointe quelle est la nature du revêtement et on a toute une série de notes manuscrites qui accompagnent la carte et qui permettent de pointer, d'indiquer les travaux qui doivent être menés. Combler des ornières, des trous, etc. Refaire les fossés, planter des arbres. Donc tout est indiqué sur la carte. Donc là, c'est l'originalité majeure du texte d'Ori. Il fait de la carte l'outil d'administration, de gestion des routes. Alors ce texte de 1737, qui au départ est un texte, un mémoire où on propose les idées, c'est-à-dire c'est un avant-projet, il donne lieu l'année suivante à une instruction en 1738, donc on diffuse dans l'ensemble des provinces du royaume une instruction sur la réparation des chemins, où on reprend la plupart des éléments du texte de l'année précédente. Alors on a tenu compte éventuellement des remarques formulées par les intendants, on a corrigé quelques éléments et là on fournit le texte définitif et dans ce texte on a un article qui revient à nouveau sur le rôle des cartes et la carte est décrite comme une opération dont on ne peut pas se passer. Il explique Ori dans ce texte, je cite, « On ne peut discerner ces opérations, c'est-à-dire les travaux routiers, la distribution des travaux par corvée, on ne peut discerner ces opérations que par les plans, c'est-à-dire les cartes, plans, détails, et les profils. Et par conséquent, c'est le premier sujet à traiter comme c'est celui par lequel il faut qu'un ingénieur commence. » Donc c'est vraiment l'étape préalable, l'étape première. Alors, les réformes voulues par Ori ne s'appliquent pas dans l'ensemble du royaume de France. Il faut se référer pour cela aux singularités administratives du royaume de France au XVIIIe siècle. Les généralités ne sont pas sous le même régime administratif. Pour simplifier, tout ce que vous avez de cartographié ici en vert pastel ou en vert un petit peu plus foncé est concerné par l'inventaire cartographique des routes. Pour ce qui concerne les généralités, les provinces représentées en grisé, comme la Bretagne, le Languedoc, la Provence ou encore l'Alsace, on a un régime ici qui est en quelque sorte un régime décentralisé. C'est-à-dire le pouvoir central n'intervient pas directement dans les décisions, dans les actes en province. C'est-à-dire ces provinces ont des institutions, des États, comme les États du Languedoc, qui ont une marge de manœuvre plus importante que les autres provinces et qui ne sont pas contraintes de suivre l'ensemble des directives venant de Paris. Donc ces provinces-là ne sont pas représentées dans l'Atlas de Trudaine par le fait de leur statut administratif. Ce qui ne veut pas dire néanmoins que ces provinces ne vont pas non plus faire un inventaire cartographique. Elles vont copier la méthode et on va retrouver des cartes itinéraires à la même manière que Trudaine en Bourgogne et à moindre échelle également en Bretagne. Donc là, il faut retenir aussi cet aspect. L'Atlas de Trudaine ne concerne pas l'ensemble du royaume de France à cette période. L'expression Atlas de Trudaine doit son origine à une famille d'administrateurs dont je vous passe les détails de leur cursus honorum, qui est impeccable pour l'époque en termes de rapidité et d'accès à des postes élevés dans l'administration française. Il fait référence, donc, cet atlas à deux administrateurs, un père et son fils, qui vont pendant 30 ans détenir dans leurs attributions, ils ont un poste qu'on appelle d'intendant des finances, et l'équivalent d'un secrétaire d'État aujourd'hui, si on se hasarde à des comparaisons en termes de rang, ils sont juste en dessous du contrôleur général des finances, du ministre de l'économie et des finances en quelque sorte de l'époque. Donc ces personnages-là, pendant 30 ans, ils vont détenir ce département des ponts et chaussées, donc ils vont être amenés à superviser la réalisation de l'atlas de l'inventaire cartographique commandé par Philibert Horry. D'où le fait qu'on ait donné le nom de l'Atlas, qu'on ait tiré le nom de cette famille, qu'on l'ait donné à cet Atlas, parce que c'est véritablement cette famille qui va suivre l'entreprise sur le long terme, bien au-delà de l'administration de Philibert Horry. Donc l'Atlas de Trudaine est élaboré par un personnel permanent ou vacataire qui dépend de l'administration des ponts et chaussées, donc chapeauté par les Trudaines, et cette administration des ponts et chaussées me permet de faire le lien avec l'exemple de la généralité de Caen, à savoir comment cette administration réalise les cartes, comment le travail est-il mené sur le terrain. Alors bien sûr, le premier intérêt pour nous, le premier et principal intérêt de l'Atlas de Trudaine réside dans la représentation des routes, ce qui n'est déjà pas rien. On a ici la possibilité d'avoir une analyse très fine, une reconstitution très fine du réseau routier ancien. Alors là, on va jouer justement par ce jeu de focale. Vous avez sur cette première carte la représentation, alors on ne voit pas, il y a des pointillés sur certains itinéraires, vous avez ici en représentation les routes royales qui devaient être cartographiées et qui éventuellement le sont. C'est-à-dire on a recensé des itinéraires dont on n'a pas la cartographie, mais qui devaient faire partie de l'enquête. Donc ici, vous avez l'image du réseau routier le plus important de l'époque. C'est-à-dire ce qu'on appelle la route royale, c'est la route dont la gestion, dont l'administration dépend directement du pouvoir central, parce que c'est une route stratégique. Vous avez ici beaucoup de routes qui mènent vers les frontières du royaume, vers les principales villes, vers les ports, le réseau majeur au plan routier au milieu du XVIIIe siècle. Alors on retrouverait ici le tracé de la plupart de nos actuelles routes nationales, et qui sont hérités de ces routes tracées ou modifiées éventuellement à l'époque Trudaine. Donc l'Atlas de Trudaine, c'est un atlas donc, qui comporte 62 volumes, et ces volumes rassemblent donc toute une série de planches dont je vous ai donné ici le détail. On a des planches de route et des planches d'ouvrage d'art. On va voir tout de suite après quelle est la différence. Le réseau représente 490 itinéraires au total, mais seulement les deux tiers ont été cartographiés, et vous avez un réseau cartographié qui représente plus de 16 000 km de route, tout ça en un peu plus d'une trentaine d'années, donc ce qui est assez, très rapide pour la période lorsqu'on se réfère aux moyens utilisés. Concrètement, en moins de 30 ans, on a levé et cartographié plus de 16 000 km de route. À peu près 200 personnes vont participer, en tout cas 200 personnes sont connues, il y en a probablement plus puisqu'il y a des personnages qui interviennent dans le processus de fabrication mais qui ne sont pas référencés dans les sources. On a au moins 200 personnes qui sont nommées, qu'on retrouve dans d'autres sources écrites et qui participent à l'entreprise. Alors c'est parmi ces 200 personnes, on retrouve deux grands groupes, ce qu'on appelle les géographes, ce qu'on appelle un géographe au XVIIIe siècle, c'est l'équivalent du cartographe actuel. Le mot cartographe n'existe pas. On parle de géographe à l'époque pour désigner les personnes qui sont habilités, qui ont le savoir technique pour lever sur le terrain des cartes précises. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des dessinateurs. Là, c'est un point important. Celui qui lève la carte sur le terrain n'est pas forcément celui qui la dessine. Et là, on a un premier défaut, en quelque sorte. C'est-à-dire, la personne qui vit le terrain, son action risque d'être biaisée par le dessinateur qui, lui, n'a pas vu concrètement les choses et qui peut représenter les éléments de la topographie avec des erreurs, des incertitudes. Pour ce qui concerne la Normandie, donc on se rapproche. Ici, vous avez la représentation du réseau normand pour ce qui concerne les trois généralités normandes, généralité de Caen, d'Alençon et de Rouen. Vous avez en rouge, en liseré plein, vous avez les routes qui ont été effectivement cartographiées et en pointillé sont représentées les routes qui étaient prévues, qui sont recensés, dont on a un inventaire détaillé, donc on peut les représenter assez facilement puisqu'on a vraiment toutes les étapes de ces routes, tous les bourgs par lesquels ces routes de passer, donc on peut les représenter sur la carte, mais on n'a pas la représentation de ces routes dans l'atlas de Truden. J'en viens à la généralité de Caen, qui représente deux volumes parmi les 62 volumes de l'atlas de Truden, et au total on a 86 planches, 58 planches de route et 28 planches d'ouvrages d'art. 24 itinéraires sont recensés dans cette généralité, mais seulement 8 sont cartographiés. Alors finalement, la généralité de Caen, c'est un assez mauvais élève, puisqu'on a un taux de couverture des itinéraires assez faible par rapport à la plupart des généralités. Alors à cela, plusieurs explications, manque de moyens financiers, manque de personnel pour mener concrètement le travail sur le terrain, un certain nombre de facteurs interviennent ici. Le réseau représente au total 1340 km, et seulement à peu près 400 km sur ces 1340 km sont effectivement cartographiés. Hormis le fait que le taux de couverture est assez faible, on a ici une généralité dont le réseau routier est très dense par rapport à d'autres généralités. Alors ça, c'est une caractéristique qui perdure encore aujourd'hui. Des départements comme la Manche ont une densité en termes de réseau routier, de routes, une densité très importante. Et là, ici, on a aussi une densité très forte avec certes un certain nombre de transversales, mais aussi un certain nombre de grands itinéraires intermédiaires entre la plupart des villes, des lieux importants de la généralité. Alors pour cette généralité, on connaît seulement le nom de trois géographes, donc il y a au moins trois personnes différentes qui vont lever sur le terrain les cartes, et on a le nom, on dispose du nom d'au moins, il y en a probablement plus, mais on a le nom d'au moins 5 dessinateurs. Donc là aussi, limite importante, on n'a pas une œuvre qui est faite par une seule et même personne, on n'aurait pas pu le faire en une trentaine d'années. On va avoir des personnes qui ne vont pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Ça, c'est assez approchant, mais certaines vont utiliser des techniques de représentation assez différentes. Comment se présente l'atlas de Truden? Vous avez ici la représentation d'un itinéraire routier, donc la route de Caen à Saint-Lô par Cérisy, donc Cérisy, la forêt. Et donc vous avez sur chacune des planches, là elles sont coupées, on n'a pas la planche représentée en entier, on va en voir un exemple tout de suite après. Sur chacune des planches, on a la représentation de la route qui est à chaque fois en position longitudinale dans le milieu de la planche. C'est-à-dire qu'on a l'orientation de la planche, le nord n'est pas forcément en haut de la carte, comme les conventions le veulent aujourd'hui. L'orientation de la carte change à chaque fois en fonction du tracé de la route. Si la route marque un virage, la carte suivante, la feuille suivante, va suivre le tracé, le virage fait par l'itinéraire, fait par la route. Donc ici, on a à chaque fois la représentation de la route, ce qui montre bien que la cartographie se focalise sur la route, c'est en quelque sorte la route qui constitue, c'est le rail d'un travelling, pour reprendre une image cinématographique. Vous avez un rail et la caméra, elle suit ce rail, et bien là on a le regard à vol d'oiseau qui va suivre, qui va avoir comme fil rouge le tracé de la route. Par rapport à cette route, on a également la représentation des environs immédiats sur une distance qui fait à peu près 500 toises, donc un petit peu plus d'un kilomètre, 1 à 2 kilomètres en fonction des planches. Donc on a une sorte de faisceau. On a à chaque fois des cartes qui vont prendre une bande de territoire. Alors bien sûr, le problème pour nous, c'est que quand on veut à chaque fois aller voir au-delà, on reste sur sa fin, parce qu'on n'a pas la suite en profondeur, on n'a pas l'ensemble des éléments au plan territorial. Le format des feuilles est à peu près immuable. Ces planches font 60 cm sur 88 cm, donc déployées, donc c'est quand même assez volumineux et assez lourd, vous pouvez me croire, sur parole, ayant manipulé les 62 volumes. Et au niveau de ces planches, on a trois grandes parties. Le faisceau avec la route. Alors ce faisceau, c'est le même principe qui est utilisé encore aujourd'hui lorsqu'on crée une voie de TGV ou une autoroute. On a la représentation d'un faisceau à l'intérieur duquel on a la proposition d'un tracé, mais on a aussi les abords immédiats. Comme ça, si on a une modification de tracé à faire, eh bien on a un petit peu de marge de part et d'autre. On a deux autres bandes. Dans la partie supérieure, c'est un exemple qui est tiré de la généralité d'Alençon et non pas de la généralité de Caen, tout simplement parce que sur les planches de la généralité de Caen, on n'a pas d'informations aussi détaillées que dans la voisine, donc dans la généralité d'Alençon. Dans la partie supérieure, on a l'indication des paroisses qui sont rattachées à la route pour les travaux par corvée. C'est-à-dire que vous avez le nom de la paroisse avec sa distance par rapport à la route en toise, et on a en dessous l'indication de la portion, la distance, la portion de route qui doit être travaillée, réparée par les habitants de cette paroisse. Donc l'atlas de Truden sert bien à la distribution du travail par corvée, et la route est portionnée. On a des tronçons de route qui sont attribués à différentes paroisses. Dans la partie inférieure, dans le bandeau inférieur, on a là aussi des distances, des portions de route, avec toute une série de mentions manuscrites qui indiquent les travaux qui sont à mener. Donc là, en l'occurrence, on nous indique que c'est une bonne chaussée, dont le pavé a été refait récemment, c'est indiqué un petit peu plus bas. Donc on a éventuellement l'indication des travaux qu'on doit mener sur cette portion-là. Donc tout est bien distribué au niveau de l'administration, tout est bien réglementé pour éviter, comme le dit Horry dans ses deux textes, pour éviter que la corvée devienne odieuse. Eh bien, on fait les choses de manière scrupuleuse pour éviter de flouer une paroisse par rapport à une autre. Le côté intéressant de cette planche, qu'on n'a pas sur les dessins définitifs de la généralité de Caen, vous avez ici des traits rouges. Alors, on les perçoit assez mal, j'aurais pu faire un zoom. Ici, vous avez les visées de triangulation. L'atlas de Truden fait appel, pour l'époque, aux toutes dernières techniques en matière de levée des cartes. Donc on a des cartes qui, au niveau de leur représentation, au moins pour les abords de la route, sont très fidèles en termes de distance. On a très peu d'erreurs sur un kilomètre. On a des erreurs qui représentent 2 à 3 cm au maximum. On fait appel à des lunettes, à des systèmes de visée. Après, la règle des cosinus, on procède par triangulation. On a une base et un autre côté, et on arrive par définition à avoir le troisième côté d'un triangle. Ici, on a des visées. Depuis la route, on vise la plupart du temps des clochers, un bon point de repère dans le paysage, des tours de château. On évite les arbres, parce que les arbres, par définition, on peut les couper, ils peuvent mourir et ce ne sont pas des éléments aussi tangibles au niveau de la topographie. Donc on a une œuvre qui est une œuvre établie sur des procédés scientifiques. Ce qui est intéressant pour nous, parce que quand on s'intéresse à la route et éventuellement au village et aux parcelles, bah, on est en droit d'attendre quelque chose qui est précis, donc, sur lequel on peut se fonder assez facilement pour récupérer un certain nombre de mesures. Et là, en l'occurrence, on a même une échelle qui est indiquée de manière graphique. Au niveau de l'échelle globale, un point important là aussi, on est à une échelle qui est de 1/8640. C'est une échelle 10 fois plus précise que la carte de Cassini, et c'est une échelle, pour ceux qui font de la randonnée, qui manipulent régulièrement les fameuses cartes de la série bleue IGM, ça, au moins en géographie, vous y avez au moins droit en termes de commentaires de cartes topo. Donc on est à une échelle qui est 3 fois plus fine. Au niveau du détail. Donc on est à un niveau de détail assez précis, donc c'est intéressant pour nous, là aussi, pour mener des études très fines. En plus de ces planches de route, on a, là j'insiste pas là-dessus, on a à la suite des planches, des planches de route, des planches d'ouvrages d'art, où on a représenté les ponts, les ponceaux, les aqueducs qui sont empruntés par la route, qui doivent être soit reconstruits ou éventuellement qui sont à construire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, ils font construire un certain nombre de ponts, de ponceaux, de petits ponts donc, et on a la représentation ici de ces ponts. Alors, à chaque fois, on a une lettre, on a l'indication du pont, éventuellement parfois un nom, et avec à la suite une lettre ou parfois un chiffre, et cette lettre, ce chiffre, renvoie au plan de la route ou sur lequel on retrouve la lettre, là où doit se situer le futur pont. Alors ça, on se sert de ces plans-là, non pas pour la distribution du travail par corvée, parce que les corvéables ne réalisent pas des travaux de ce type. Ça nécessite un savoir technique, ce que n'ont pas forcément les corvéables, même pour la plupart d'entre eux, ils ne l'ont pas. Il faut un savoir au moins minimaliste en termes de portée, au niveau des arches, au niveau de l'architecture hydraulique. Donc ces planches vont servir à l'établissement de devis précis pour évaluer le coût des travaux. Et ça, ces travaux-là sont financés directement par le pouvoir royal. Donc le pouvoir royal, pour éviter toute dérive, il commande des plans très précis, pour être certain que l'entrepreneur auprès duquel on a mené l'adjudication des travaux a bien respecté le travail mené. On en arrive à mon troisième grand point, le plus important, qui se rattache à l'étude du milieu rural. Alors dans cet ultime volet, je pense qu'il était intéressant de passer en revue les différents domaines pour lesquels l'Atlas de Truden peut représenter une source précieuse pour le chercheur, car cette source n'est pas qu'une source contenant de belles illustrations. C'est vrai que ça fait très bien en couverture de nombreux ouvrages, en illustration d'un certain nombre d'articles, mais il faut aller un petit peu au-delà en termes de contenu et de focus par rapport à la carte. Grâce à la finesse des représentations, des analyses topographiques très fines peuvent être conduites et on peut mener un certain nombre d'interprétations, d'analyses, en particulier dans le domaine paysager, et c'est sur cet aspect-là que je vais insister. Mais avant toute chose, il faut revenir sur un certain nombre de défauts que j'ai déjà en partie pointés. Il faut se poser une question constamment, à savoir, s'agit-il d'une représentation fidèle et exacte de la vérité ? Parce qu'on ne peut pas mener une étude fine et précise si on suppose que la carte comporte un certain nombre d'erreurs. Et là, en l'occurrence, il y a un certain nombre de défauts. Je l'ai signalé, plusieurs personnes vont travailler sur les différents plans. Parfois, pour un même itinéraire, on a plusieurs cartographes et plusieurs dessinateurs. Donc on a un caractère aléatoire dans les modes de représentation du territoire. Toutes les planches sont faites à l'encre de Chine, à l'aquarelle. Donc là, à chaque fois, on a un travail d'artiste, hein, un travail personnel qui intervient. Donc chacun va avoir sa petite méthode, ses petites recettes dans la manipulation des couleurs et dans la représentation du territoire. Donc il ne faut pas négliger ce travail d'interprétation. Le dessinateur va souvent chercher à faire joli. à faire beau, parce que c'est la beauté de ces cartes, c'est synonyme à l'époque de précision. On estime que les cartes sont belles, elles sont bien travaillées, donc elles sont précises, ce qui n'est pas toujours le cas, bien évidemment, quand on a notre regard à nous actuellement, en recherchant la précision des données topographiques. Mais à l'époque, on recherche ce principe de la beauté. Pour une simple et bonne raison, ces cartes, elles passent dans les bureaux ministériels. Elles passent aussi au Conseil d'État du roi, qui va, par un arrêt du Conseil, ordonner le lancement des travaux sur tel ou tel itinéraire. Donc il faut présenter quelque chose qui soit à la fois précis, mais également beau, à l'œil du ministre, des Trudaines, éventuellement du monarque. C'est pour cela qu'on va retrouver un certain nombre de problèmes sur beaucoup de planches, comme ces petits arbres que vous avez disséminés un petit peu partout. Alors c'est très beau parce qu'on a l'arbre avec son tronc et puis la représentation des feuilles, et on a même l'ombre portée de l'arbre, l'ombre portée au sol. Mais ça signifie en aucun cas que vous trouverez ces deux arbres-là sur le terrain. C'est-à-dire on va combler des blancs, des passages un peu vides de la carte par tout un décorum. Par tout un système comme ça de figurés agréables sur le plan esthétique, mais souvent purement fantaisistes, donc comme les arbres et aussi éventuellement les parcelles. Là, on a des tirés qui représentent des champs cultivés, sillonnés. On a la représentation ici, par le biais de ces tirés, on représente le sillon. Là, on a des tirés dans un sens et dans l'autre, au sens longitudinal et vertical. Ça ne signifie pas qu'ici, on a une limite d'une parcelle et que là, on a une autre parcelle. Non, c'est que pour un même ensemble, eh bien, on va effectuer des tirés dans différents sens. Mais on ne peut pas utiliser cette information-là pour dire que dans cet ensemble-là, on a trois parcelles. Parce que là, ça paraît, on a différentes couleurs, on pense qu'il y a trois parcelles. Non. Il ne faut pas utiliser ça comme il ne faut pas prendre au premier mot, en quelque sorte, l'information qui est figurée. Alors pour quand on a un certain nombre de problèmes, parce que les archives départementales du Calvados ne conservent pas les brouillons, c'est-à-dire les minutes des ingénieurs. Et on ne peut pas comparer le plan définitif qui est conservé à Paris avec éventuellement le document de travail. Ça, c'est intéressant lorsqu'on a les deux, parce que là, on peut voir justement ce que le dessinateur a oublié, ou volontairement ou involontairement, et ce qu'il va changer en termes de représentation des aspects. J'ai néanmoins trouvé un exemple pour vous montrer toute la difficulté, toutes les précautions nécessaires à prendre lorsqu'on utilise la tasse de Trudaines. La ville de Granville est représentée sur deux itinéraires. Elle constitue le point d'aboutissement de deux itinéraires inventoriés au niveau de leur cartographie. La route de Coutances à Granville et la route de Villedieu-les-Poêles à Granville. Donc là, on a la représentation en fait de ces deux routes. La première route, là ici, de Coutances. Et ici, on a la route donc, qui se rend vers, qui mène vers Villedieu-les-Poêles. Et donc ici sur cette carte, sur ces deux cartes dont l'orientation est différente, on retrouve la représentation de même portion. Or, si on s'approche un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'incohérences. On a ici la représentation d'un certain nombre de maisons, avec à l'intérieur normalement ce qui devrait être des jardins maraîchers. Lorsqu'on a des petites portions comme ça tiretées, sont des jardins maraîchers. À l'inverse ici, ce sont des champs. Or là, ici, on ne retrouve pas toutes les habitations, alors que les cartes ont été faites à peu près à la même période, à 5 ans près. Donc j'imagine que l'extension du bâti Grandvillers n'a pas suscité autant d'écart en termes de représentation du bâti. On retrouve certes certains éléments, cette petite maison. Là, j'ai modifié l'orientation pour qu'on puisse comparer. Là, cette maison, on la retrouve bien ici. On a bien aussi la représentation de son jardin maraîcher. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas du tout la même représentation. Ce bâtiment-là, qui devait normalement avoir trois ailes, se retrouve avec deux ailes uniquement ici. Ce bâtiment-ci, qui devait une ferme peut-être, un manoir éventuellement, avec trois bâtiments, là on n'a plus que deux bâtiments en parallèle, avec ici des murs qui permettent de faire la jonction entre les deux bâtiments. Donc là, on a pour un même lieu, deux dessinateurs qui vont agir et deux dessinateurs qui ne vont pas du tout avoir les mêmes méthodes en matière de représentation des éléments et qui ne vont pas représenter, ce qui est plus grave pour nous, les mêmes éléments. Parce qu'il y a plus de maisons d'un côté que de l'autre. Donc il ne faudra pas prendre au pied de la lettre les éléments figurés sur la place de Trudaine. La rivière du Bosque, qu'on aperçoit maintenant à peine, en tout cas dans ces environs-là, puisqu'elle est complètement canalisée, là, elle forme un méandre qui disparaît ici. On n'a plus du tout le méandre, là on a probablement peut-être un petit moulin, mais on n'a plus du tout ici la représentation du méandre qu'on repère ici. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas une représentation parfaite de la réalité, hein. Ce n'est pas Google Earth avec la photographie qu'on zoome et où on voit à la minute près pratiquement si votre voiture était bien garée chez vous devant le portail de votre maison. On n'a pas une représentation fidèle, ce n'est pas une photographie de la réalité du territoire. Donc là, à partir de cet exemple, on voit un certain nombre de différences et de problèmes. Le crédit que les historiens peuvent accorder au plan routier va donc varier en fonction des éléments figurés. Et j'ai regroupé ces éléments autour de trois grands domaines, au-delà des paysages agricoles, trois grands domaines, l'habitat, l'espace forestier et le réseau hydrographique, tout ce qui se rapporte à l'eau. Et donc, au-delà, les paysages agricoles qu'on verra en dernier lieu. Le bâti, malgré les problème que j'ai pointé à l'instant avec Granville, la plupart du temps, le bâti est bien relevé. Pourquoi on relève bien le bâti, en tout cas le bâti le plus proche de la route? Tout simplement parce que ce bâti, il influe sur le tracé de la route. Alors le droit d'expropriation, il est très embryonnaire à cette période, même s'il se précise, mais exproprier un certain nombre de personnes, ça pose des problèmes. Donc tout ce qui se rapporte au bâti, on le représente bien parce que ça peut créer des problèmes lorsqu'on va effectivement tracer la route, ouvrir la route, mener les travaux. Pour tout ce qui se rapporte au bâti, on va avoir des représentations, des éléments qui sont assez bien représentés. Et là, il y a tout un panel d'études possibles. On a différents exemples d'ailleurs, j'ai noté un certain nombre d'aspects. En 1944, Philippe Pinchmel a utilisé les planches de l'Atlas de Trudaine pour examiner la morphologie des fermes picardes. On pourrait tout à fait mener la même chose en Normandie, où là, dans la partie inférieure, je vous ai représenté des hameaux et aussi des fermes. Hein, donc on peut étudier la forme de ces fermes, avec toutes les précautions d'usage. Hein, le corpus a ses défauts, mais il faut le prendre comme tel. Un peu plus récemment, l'historien Claude Petitfrère a utilisé des planches de l'Atlas de Trudaine pour étudier la forme des villages limousins. Donc on peut étudier forme en village-rue, forme en village groupé, les lieux-dits, les hameaux. Là, vous avez un parfait exemple de bourg, village groupé, et là, un village-rue. Saint-Martin des entrées, juste avant Bayeux, sur la route de Paris, à Cherbourg. Donc on peut exploiter l'Atlas de Trudaine pour ce qui concerne le bâti, pour élaborer toute une série d'études au niveau de du bâti. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que cet Atlas de Trudaine, au départ, il représente les routes et il représente les villes qui sont connectées, qui sont jointes par ces routes. Donc ça nous permet aussi d'étudier la limite ville-campagne. On a une forte précision sur quelles sont les limites des différentes villes, des bourgs, des villages à cette période. Donc ça permet de voir l'extension de la ville de Caen, Bayeux, etc. Donc l'écart ville-campagne. Donc ça, c'est une autre catégorie d'études assez intéressante à mener. Toujours dans le domaine du bâti, on a parmi les représentations, les éléments intéressants, la représentation des ruines, des restes de ponts ou d'une voie romaine sont parfois mentionnés, donc c'est un autre élément intéressant. On a aussi l'indication des toponymes. Alors il y a souvent des erreurs dans la mention de ces toponymes parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de tout vérifier sur le terrain auprès du curé sur les noms. Alors c'est souvent un peu comme les curés à cette période, on entend un nom mais on va l'orthographier de manière différente, mais on peut mener aussi une étude des toponymes et voir quelles sont les continuités et les ruptures dans la désignation des lieux. Le deuxième ensemble, se rapporte aux espaces boisés. L'objectif initial étant de créer ou de restaurer une route, si son tracé traverse une forêt, là aussi ça implique un coût. Un coût et un temps, une durée en termes de travaux. Le travail va être plus long lorsqu'on va traverser une forêt, on est obligé de déboiser une partie de la forêt. Par conséquent, l'emprise des espaces boisés est aussi un élément finement relevé. Un bois, une forêt peuvent influer le tracé d'une route, mais par contre, on va avoir la représentation des limites de cette forêt, de cet espace boisé. Ici, on voit bien qu'on passe d'un espace forestier à ici un espace cultivé de champs, mais à l'intérieur, on va moins dans le détail. On n'a pas la représentation de tous les petits chemins qui sillonnent cette forêt. Et vous voyez par exemple ici, pour la même forêt, forêt de Balleroy, Sérisy, on a deux dessinateurs différents qui vont utiliser deux figurés différents. On va plus représenter des feuillus, alors qu'ici c'est beaucoup plus ténu en termes de représentation des arbres. Donc, pour ce qui concerne les forêts, on peut étudier la limite de ces forêts, on sait quelle est leur emprise, mais par contre, à l'intérieur de cet espace forestier, on ne peut pas mener des études très fines. Néanmoins, on peut, la plupart du temps, par les figurés utilisées, on sait s'il s'agit d'une forêt de feuillus et éventuellement de conifères. Ce sera moins le cas, bien entendu, dans la généralité de Caen, mais dans une généralité comme la généralité de Grenoble, on va retrouver les espaces forestiers incluant des conifères qui vont faire appel à des figurés différents. Troisième et dernier grand groupe d'informations par rapport à l'hydrographie. Là aussi, sont des éléments qui influent sur le tracé d'une route. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les marais, les étangs, la mer, lorsque une route passe à proximité de la mer ou d'une falaise, éventuellement les prairies. Donc ces éléments-là, j'ai fait à chaque fois, bien entendu, des zooms, sinon vous ne verriez rien sur les plans. On a des éléments qui sont assez bien relevés. Ici, nous sommes aux portes d'Avranches, immédiatement à l'est d'Avranches, on a la représentation des prairies formées par les méandres de la C. Là, on a les méandres immédiatement en aval de Caen, on a les méandres qui sont formés par l'Orne, et ici, la représentation en bleu, en vert vif, pardon, ce sont des prairies. Là aussi, ce sont des prairies, à l'inverse de champs cultivés, ici avec des sillons. Donc là, c'est l'espace éventuellement inondable. Et c'est marqué parfois sur les cartes, espace, zone inondable. Donc attention, on ne va pas faire passer une route dans ce secteur-là, c'est difficile à construire. Là, vous avez la représentation de marais. Alors c'est grossièrement représenté, mais on a quand même la délimitation de l'espace marécageux. Et ici, à proximité de Donville-les-Bains, on a la représentation des falaises et du trait de côte, en quelque sorte, formé ici par la Manche. Donc on peut utiliser, là aussi, l'Atlas pour mener des études sur le milieu hydrographique. Il y a tout un panel d'études qui peuvent être menées à nouveau en ce domaine. Mais l'apport le plus conséquent, par lequel je termine, réside probablement dans la possibilité d'appréhender les paysages anciens dans un ensemble beaucoup plus large. D'ailleurs, pas étudier finement des fermes ou un lieu précis, là c'est d'avoir une vue globale des paysages anciens. Alors la fécondité des études d'archéologie paysagère a été soulignée par de nombreux travaux, je pense notamment aux travaux de l'historienne Annie Antoine. Et là aussi, il y a donc toute une série d'études qui peuvent être menées. Mais il y a une prudence à avoir toujours à l'esprit pour nous. Les parcelles agricoles sont considérées comme secondaires par l'ingénieur. Pourquoi ? Parce qu'une route peut facilement couper des parcelles agricoles sans que ça crée d'énormes problèmes au niveau juridique. En termes d'expropriation, d'accaparement d'espaces de parcelles, les démarches sont très limitées à cette période. On n'a pas de procès parce que l'État a pris la portion d'une parcelle agricole pour tracer une route. Donc les parcelles agricoles sont considérées d'un caractère secondaire par les cartographes et l'ingénieur n'a pas le temps de prendre dans le détail les éléments. Donc c'est une approche qui est décevante pour nous, mais néanmoins, on peut
en retirer un certain nombre d'aspects. Grâce aux informations figurées, le chercheur perçoit néanmoins, malgré tout, visualise les grandes catégories d'occupation du sol au milieu du XVIIIe siècle. On repère très bien s'il s'agit de terres labourables, même si on ne peut pas faire une analyse parcellaire, comme avec des plans cadastraux, des plans terriers, on repère bien qu'ici il s'agit de terres labourables, on va repérer qu'ici il s'agit de prairies, on repère aussi le relief, ce qui n'est pas une information là non plus anodine. Donc on repère les grands ensembles en termes d'occupation des sols, plaines, prairies, espaces viticoles, espaces maraîchers, les vignes, oui, on n'a pas d'exemple ici, mais on perçoit des vignes sur certaines des planches de la généralité de Caen. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a amené à analyser, à étudier l'Atlas de Truden, c'est un travail de maîtrise que j'ai fait sur de démographie historique, assez classique dans la forme, sur une petite ville de Touraine qui s'appelle Loches, et on m'a transmis un extrait de l'Atlas de Truden, et je me suis servi de cette planche avec un calque pour essayer de retracer quelles étaient les différentes activités agricoles qu'on retrouvait dans les environs. Donc j'ai représenté d'une telle couleur tout ce qui était viticole, champs, jardins maraîchers. Donc ça, on peut, par le biais d'un SIG maintenant, avec des systèmes informatiques, former des calques et voir quelles sont les grandes catégories d'occupation du sol. Donc ça, c'est une possibilité. Ça ouvre beaucoup de possibilités en ce domaine. Donc d'est en ouest, du nord vers le sud de la généralité, les paysages se dévoilent à celui qui examine l'Atlas de Truden, qu'il s'agisse du bocage qu'on va retrouver par exemple dans la région Grand-Villaise ou même proche de Villedieu-les-Poilmes, qu'il s'agisse des plaines du Bessin, de la campagne de Caen, des marais du Cotentin, on repère tout à fait ces ensembles, leur emprise au niveau territorial. Alors là, j'ai utilisé un certain nombre de figures sur lesquelles j'achève ma communication. On a ici la représentation des espaces agricoles à proximité de Villedieu-les-Poilmes. On est dans un paysage clairement ici de bocage qui est souligné par des haies. C'est la représentation de haies. D'ailleurs, on repère ces haies sur chacune des routes. On n'a pas un trait uni. On a un trait qui comporte des petites imperfections, qui est tracé en vert, ce qui signifie qu'il y a des haies. Donc là, on a un paysage qui est rempli de haies. Au niveau des parcelles, les parcelles sont bien référencées, bien repérables par le biais de haies. On repère ces haies également sur ce paysage qui est plus plat. On voit au niveau du relief par rapport au précédent, on repère bien au niveau de la géomorphologie, on repère bien le relief, surtout quand on regarde les planches à distance, on repère bien les ensembles au niveau du relief. Là, on a un paysage plus plat, en tout cas le relief est moins perceptible, s'il y en a un, le dessinateur ne l'a pas représenté, mais en l'occurrence, il n'y en a pas, un paysage plus plat, avec néanmoins des haies de séparation entre certaines parcelles qui ont été relevées par l'ingénieur. Mais plus on s'écarte de la route, plus on s'aperçoit que y en a moins de haies, en tout cas sur le dessin, ça ne veut pas dire que dans la réalité, il n'y en a plus. C'est parce que plus on s'éloigne de la route, plus l'ingénieur va vite dans le tracé. Il ne va pas tout relever avec précision. Quand on est près de la route, on relève avec précision parce que ça a une incidence sur les travaux. Après, plus on s'écarte de la ligne de la route, plus la représentation cartographique est sujette à caution. Troisième exemple, là on est dans un paysage presque d'open field, hein, dans la campagne de Caen. On a quand même encore quelques haies de ci, de là, et puis un certain nombre de routes, un réseau quand même assez dense au niveau des routes, mais on a quand même des parcelles ici de champs cultivables qui sont très larges en termes de distance. On a certaines parcelles qui vont jusqu'à 1 km de long, donc on est dans un paysage là ici beaucoup plus de plaines et d'open field en termes de pratiques agricoles. Paysage de bruyère cette fois-ci aux environs du village d'Errant. Et dernier exemple, un mélange à la fois de prairies dans la partie en haut à droite du plan, prairies, Et à l'inverse, dans la partie inférieure et à gauche du plan, on a ici la représentation de petits plateaux en quelque sorte, puisqu'on voit bien le relief, là, la différence entre la petite vallée, les prairies, et là ici les champs cultivés, les différents hameaux qu'on retrouve. Là c'est sur la route de Caen en Bretagne, et c'est à nouveau à proximité d'Avranches, donc sont des prairies formées par l'Acé. Alors, bien d'autres éléments sont représentés sur l'atlas de Truden, comme les vignes, les vergers, les carrières, les viviers, les jardins maraîchers, les jardins d'agrément. Bref, il y a de quoi nourrir quelques étudiants en master pour mener des recherches thématiques. Alors, ce qu'il faut retenir de cet atlas, pour conclure, il ne faut pas tout attendre de l'atlas de Truden. J'ai été vraiment très prudent dans ma présentation. Si cette source est une belle base de travail, déjà par son plan, sur le plan esthétique, comme pour tout travail de recherche, cette source va nécessiter un certain nombre de précautions d'usage. Malgré son esthétisme plaisant et séduisant, l'atlas de Truden présente plusieurs défauts. Premier défaut, défaut majeur, sa présentation en faisceau. On n'a pas une cartographie exhaustive de la généralité de Caen. On a juste la représentation des abords des routes royales qui sillonnent la généralité de Caen. Donc quand on veut aller au-delà, eh bien, on reste sur sa fin. C'est souvent le problème. Beaucoup de gens me contactent pour avoir la représentation éventuellement de leur ferme qu'ils croient ancienne, mais manque de peau, c'est juste au-delà du faisceau de la planche. Donc ça, c'est un travail, un problème majeur. La présentation en faisceau laisse souvent le chercheur insatisfait. De plus, les recherches, lorsqu'elles sont conduites à proximité, les informations, lorsqu'elles sont situées à proximité de la route, il y a une bonne caution à porter aux éléments représentés, mais plus on va s'éloigner de la route royale, plus les éléments, les figurés, vont être sujets à caution. Donc on a une bande territoriale étroite, ce qui restreint les possibilités d'enquête. À mesure que les thèmes d'études vont s'éloigner du fait routier, l'atlas va donc prouver rapidement ses limites en termes d'études du milieu rural, des espaces ruraux et même de l'espace urbain, puisque les villes occupent une place importante dans cet atlas. Très souvent, l'atlas ne peut suffire à lui seul et il faut compléter les informations qu'il contient avec d'autres documents cartographiques lorsqu'on en a à notre disposition. Hein, c'est toujours le même principe. Il faut recouper les sources entre elles pour vérifier des informations, et on a des informations bien évidemment plus précises lorsqu'on dispose de plans terriers ou de plans parcellaires cadastraux. Alors, ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que ce corpus est encore largement inexploré par les historiens et les géographes et même les archéologues, inexploré parce que ce type de source, on n'est pas habitué à utiliser couramment ce type de source, et c'est assez difficile à appréhender, à exploiter dans le cadre d'une recherche. Donc autant que faire se peut, lorsqu'on souhaite mener une étude sur cette source, il faut recouper les sources cartographiques, sans oublier non plus les sources écrites, les mentions écrites qu'on a sur les planches ou éventuellement sur les mémoires produits par les ingénieurs des ponts et chaussées, car ces documents écrits, ces mentions manuscrites complètent elles aussi largement les informations qui sont figurées sur les planches. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.